Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les deux histoires que nous racontons aujourd'hui se passent dans le centre de la Bretagne, dans deux communes au profil assez similaire, Maël Carré et Glomel. Les auditeurs, familiers des pieds sur terre, auront tout de suite deviné qu'Inès Leroux n'est pas loin et son journal breton qui fait des retours bondissants dans nos programmes parce qu'il se passe toujours quelque chose quand on regarde de près. Ici, les exploitations agricoles s'agrandissent en même temps qu'elles se raréfient. Les terres d'élevage se transforment en surfaces de culture, voire de très grandes cultures. Les machines sont de plus en plus grosses et rapides, presque trop hautes pour qu'on puisse voir le chauffeur. Parfois, les travaux sont effectués par des entreprises de travaux agricoles et dans ce cas, on ne voit même plus l'agriculteur. Et quand il arrive un problème, les habitants des hameaux connaissent mal les exploitants qui les ignorent aussi, se plaignant de ne pas pouvoir travailler en paix. Le problème aujourd'hui, et qui ne date pas d'hier, ce sont les pesticides. Rappelons que la France est le premier pays d'Europe qui consomme le plus de pesticides et le troisième à l'échelle mondiale. Leurs effets néfastes sur la santé, sur l'environnement, n'ont de cesse d'être démontrés par des professionnels, sans qu'aucune mesure concrète ne soit mise en place. Sur le terrain, la réglementation est floue et s'avère même dangereuse pour tous ceux qui vivent à côté des champs où sont employés des pesticides. Aucune règle, à part un arrêté du 12 septembre 2006 qui stipule, je cite, que les produits ne peuvent être utilisés en pulvérisation que si le vent a un degré d'intensité inférieur ou égal à 3 sur l'échelle de Beaufort. Allez mesurer tout ça. En octobre 2018, une pétition joliment nommée « L'appel des coquelicots » plaidant pour l'interdiction pure et simple de tout type de pesticides en France a été signée par 700 000 personnes. Les instigateurs organisent également des rassemblements devant la plupart des mairies françaises tous les premiers vendredis du mois. À Glomel, ce jour-là, une vingtaine d'agriculteurs pro-pesticides sont venus discuter avec les manifestants. C'est un moment rare dans nos campagnes, précédé de l'histoire de Fanch Vénère à Maël Carré, qui n'aime pas beaucoup les pesticides non plus. Et inutile de dire que c'est une enquête d'Inès Leroux avec Morgane Large.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'habite à Kerjikalamou, à Maël Carré. Je suis dans ma 70e année et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'intéressaient à tous ces problèmes d'environnement, de triage, de déchets. Moi, j'étais dans une famille, comme on disait, spéciale, pas de vaccin, pas de défilé à l'école, mais mise en garde contre tout ce qui était chimique, pas trop de viande, c'est du cadavre réchauffé. Mais voilà, nous on était là-dedans. Et voilà, mon père avait un demi-hectare de verger. Donc les coccinelles, les orties, la méthode Boucher-Thomas, tout ça, Nature et Progrès, avec tous les inconvénients que ça existait, puisque si tu n'achetais pas leurs produits, tu n'avais pas le label bio, enfin bref, tout ça. Alors, on avait eu l'obligation de lire un livre qui s'appelait Le printemps silencieux de Rachel Carson. Ça m'a foutu un coup quand j'ai lu ce livre, là, que j'avais pas envie de lire, parce qu'on est gamin, oh, encore un livre à lire, en plus de ceux de l'école, ça fait ça en plus. Et là, c'est une Américaine qui raconte ce qui se passe ici, et à la fin, il n'y a plus d'oiseaux qui chantent, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Alors quand je vois ça maintenant, tout le monde qui s'énerve avec ça, je dis, il est bien temps. Bref. J'ai un petit verger, puis des arbres fruitiers. C'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé ici. J'ai planté des arbres fruitiers, puis un petit jardin pour avoir des légumes, parce que c'est bien pratique. Et puis c'est un plaisir, quoi. Parce que tout autour, c'est un peu attirant, quoi. C'est-à-dire le démembrement qui a eu lieu en 75, si je me rappelle bien. Il s'est arrêté à la frontière Gardesmelou en bas, quoi, à la rivière. Autrement, alors là, c'est les grandes surfaces, ça, derrière, là. C'est une grande exploitation agricole. Alors là, ils exploitent, là. Ils exploitent, suivant la dernière vieille méthode, dite conventionnelle, carrément, quoi. Et c'est donc une méthode chimique tout autour, là. Tout autour. Ce qui s'est passé, c'est que les nouveaux arrivants qui ont acheté une ferme à côté, eh bien, ils ont mis des petits pois et puis ils ont traité avec du Toutatis et du Prol 400. C'est un mélange très efficace, comme je peux le constater. Ils pensaient que, comme il y avait un talus et des arbres, ils se sont dit, ça va arrêter. Et comme il y a des trouées, évidemment, il y a toujours des trouées dans un talus, eh bien, le vent est arrivé là-dedans, et il y en a partout sur le terrain, dans le verger, dans le jardin, dans la cour. Alors, moi, je n'étais pas là quand ça s'est passé. Je suis revenu un soir. Comment j'aurais su qu'il y avait ce produit? Donc, tout va bien, je vais dans mon jardin, je me promène. Comme d'habitude, je vais voir, faire un petit tour, quoi. Je vais dans le verger. Et normalement, une fois que ça a été traité, on ne doit pas aller sur le terrain. L'entrée dans la zone traitée est interdite pendant 48 heures après. Alors, suite à ça, j'ai perdu toute énergie en me demandant d'où ça venait. Mais vidé, incapable de faire quoi que ce soit. Ça ne me ressemble pas, normalement, j'ai plutôt tendance à être dans une forme olympique, en exagérant, évidemment. Hein. J'ai plus 20 ans, j'ai plusieurs fois 20 ans, mais bon, je ne pouvais même plus écrire. Je ne dis pas que ça vient de là, mais bon. Et les feuilles ont jauni. Les feuilles d'éronces, principalement. Des framboises, et dans tout le bas du verger, on voyait bien une couleur jaune complètement artificielle. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? J'avais un buisson de romarin là, extraordinaire, beau comme la surface de la table, comme le volume de la table, fusillé, mort, net. J'ai tout de suite compris qu'il y avait eu un traitement. Alors, j'ai demandé à ces exploitants. J'ai demandé de venir. Oui, il y a eu un petit accident, c'est sûr. Il y a eu un peu, beaucoup. Ce produit-là, il est quand même classé dans les toxiques, classé cancérigène. Oh oui, mais on met une tête de mort parce qu'ils sont obligés de mettre pour prévenir. Enfin, bref, ce produit miracle qui traite normalement les adventices, comme on appelle ça, c'est-à-dire les mauvaises herbes. Sur les petits pois, arrivés chez moi, ils n'avaient plus aucun danger. Mais j'ai dit, moi, en attendant, tous mes légumes, mes fruits, là, c'est râpé, hein, pour moi, comment je fais? Il me faut un dédommagement. On va vous donner de nos légumes, si vous voulez. Ah, j'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai de vos légumes? Moi, j'ai pas confiance. Quand je vous vois avec vos produits, là, ne me parlez pas de vos légumes. Alors, évidemment, quand je raconte ça aux gens, ils rient parce qu'ils disent, oui, tu as plutôt raison. Ils ont tenté un compromis, ils sont arrivés un beau jour, ils m'ont dit on va passer. Pour la deuxième fois, ils arrivent avec quelqu'un de la COP qui vend le produit. Eh bien, le gars gentil, il dit moi je suis neutre. Il vend le produit, mais il est neutre. Alors il me dit, moi mon père, il mélangeait les produits avec les mains. Hein. Eh bien, il avait jusqu'à 90 ans. J'ai dit, ouais, moi mon gars, tu vas à un tribunal défendre ta cause comme ça, tu vois, tout le monde va rire. Parce que si ton père a vécu jusqu'à 90 ans, ici en face, il y en a un que tu connais, qui n'a pas vécu jusqu'à 90 ans. Lui. Ah oui, on peut dire que ça vient de là, peut-être. Et c'est un gars qui est gentil comme tout, neutre. Voilà, ça s'appelle une conciliation.
Fañch Wénner n'a donc pas consommé ses fruits et légumes. Après la tentative de conciliation menée par le groupe agroalimentaire auquel appartiennent ses voisins agriculteurs, Fañch s'est tourné vers son assurance. Sur son insistance, elle lui a proposé une expertise qui a eu lieu 2 mois plus tard, alors que les traces du traitement s'étaient pour la plupart estompées. À ce jour, il n'a plus de nouvelles.
Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce qui m'arrive et ce qui arrive à plein d'autres gens. C'est qu'il n'y a pas de recours de prévu. Et quand tu téléphones aux Rivières, par exemple.
L'association aux Rivières de Bretagne.
On te dit non, il n'y a jamais eu de plainte comme ça chez nous. Ah, j'ai dit, ben, c'est une excellente nouvelle. Si je suis la seule victime, c'est formidable. Non, puis on ne s'occupe pas de ça. À la gendarmerie, ils ne prennent pas ce genre de plainte parce que c'est un accident, c'est pas intentionnel. L'huissier, il dit, ah mais il aurait fallu que je sois tout de suite là, sur place, et que je constate. Donc, où déposer plainte? Et puis plus le temps passe, plus les traces s'effacent, etc. Quoi. Donc, comme je répète, apparemment, ce genre d'incident, hein, eh bien, on se demande quand même comment ça arrive. Hein, celui qui a fait ça, il dit oui, c'est un accident. On se demande même si lui, il y est pour quelque chose. Alors, il n'y a rien de prévu. Quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un comité dans le village, tout le monde est d'accord pour signer. C'est un petit texte qui demande aux paysans, vous aurez l'obligation ou la gentillesse de bien vouloir prévenir 24 heures à l'avance quand vous ferez des pulvérisations, parce que il y a des, où était la ferme en face, hein, il y a des nouveaux arrivants. C'est un couple avec des enfants. Donc il y en a eu aussi chez eux. Mais il y en a dans l'herbe, les enfants jouent dans l'herbe, etc. Et quand j'ai arrêté leur proposer ce petit texte qu'ils sont d'accord pour signer, ben, le petit gamin était assis dans le gravier, était en train de sucer des graviers. Bon, le but, en faisant un petit comité ici, je pense que, ça prendra je ne sais pas combien de temps, mais il n'y a pas qu'un village qui est impacté comme ça. Maintenant, c'est une contrainte qu'ils ne sont pas obligés de suivre non plus. Quoi. Donc il faut aménager, il faut être gentil. C'est du vieux système, ils appartiennent au vieux système qui disparaîtra un jour. Mais en attendant, on fait tout pour maintenir ces produits et ce système d'exploitation.
Fañch et ses voisins ont donc envoyé des lettres aux agriculteurs travaillant autour de chez eux en leur demandant de les prévenir avant toute pulvérisation de pesticides, d'engrais ou tout épandage de lisier. Et ceci afin que les habitants puissent s'organiser pour limiter leur exposition aux produits en retirant leur linge séchant à l'extérieur, en couvrant leur piscine ou mare à poissons, en rentrant enfants et animaux, en fermant leurs fenêtres, etc. Mais tous les agriculteurs ont continué de pulvériser sans prévenir, et voici la réaction d'une des agricultrices concernées.
Bon, qu'est-ce que j'en pense? Ce n'est pas une association, donc je vois pas ce qu'ils ont à... Ils n'ont rien à nous demander, hein, non, non. Nous, on continue comme avant, hein. Je vois pas pourquoi on les préviendrait quand il y a du fumier à épandre ou autre, hein. Je vois pas pourquoi on les préviendrait. Hein. Ils sont quoi ces gens-là? Ils sont rien du tout de plus que les autres. Hein.
À quelques kilomètres de chez Fañch Wénner, sur la commune voisine, la commune de Glomel, toujours dans les Côtes d'Armor, des habitants réclamant la fin des pesticides se réunissent tous les premiers vendredis du mois dans le cadre du mouvement des coquelicots. Un de ces vendredis, une vingtaine d'agriculteurs intensifs, pro-pesticides donc, et possédant souvent des exploitations de dimensions très importantes, sont venus s'expliquer avec les manifestants. Un micro, relié à une sono de fortune, circule dans l'assemblée.
Le problème est que vous communiquez tout le temps sur ce qui va mal, vous ne communiquez jamais sur tous les efforts qu'on fait pour la
culture. Ça va mal. Bon, l'utilisation des pesticides, elle est légale, oui, mais elle serait indispensable techniquement et économiquement. Alors là-dessus, moi, je veux qu'on discute. Je veux qu'on discute. Il faut vraiment qu'on s'écoute et qu'on travaille ensemble, qu'on partage des expériences. Parce que c'est possible, en bio et en système herbager, de se passer des pesticides et de ne pas réduire les marges. Et là, moi, je demande à l'État français, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on soit assez unis pour demander à l'État français un accompagnement technique et financier pour que les agriculteurs puissent opérer cette transition-là sans que leurs revenus soient atteints. Ça, c'est important.
Nous sommes des gens, on les utilise, les pesticides. Vous croyez que ça nous amuse d'utiliser les pesticides? Ça ne nous amuse pas. Déjà pour notre santé, peut-être, vu ce que vous nous dites. Ensuite, pour notre portefeuille, on n'est pas là pour rigoler. Hein. On est là pour donner à manger aux gens, déjà. Je passe la parole tout de suite, alors.
Juste un point, c'est moi qui distribue la parole. C'est un petit peu organisé, tout le monde l'aura, elle sera distribuée.
Bon, donc moi, agriculteur à pôle également, système céréalier, conventionnel, comme vous dites.
Vous travaillez combien d'hectares?
Alors, la question, c'est le nombre d'hectares ou c'est les pesticides?
Ce sont les pesticides.
Ben oui, c'est autre chose. Donc là, aujourd'hui, c'est stop pesticides ou c'est combien d'hectares? Ah non, il n'y a rien de secret. Il n'y a rien de secret là-dessus, c'est pas le problème. Une chose est claire, c'est que dans l'appel au coquelicot qu'on lit dans la presse, c'est l'arrêt immédiat et total des pesticides. C'est bien ça qu'on a retenu.
C'est un moment qu'on en cause. Hein.
Donc nous, aujourd'hui, notre démarche, c'est quoi? C'est d'arrêter d'être cloué au pilori, de la façon que c'est fait dans toute la presse, parce que nous sommes des pollueurs, toutes ces choses-là. Moi, je suis venu ici aujourd'hui pour rassurer des gens. On est des gens sérieux dans notre travail, dans notre vie. On a une certaine moralité également. On se dit, on peut pas rester comme ça, les bras ballants, avec une opposition féroce, parce qu'on ne peut pas dire autrement, parce qu'on s'en prend plein la gueule quand même. Hein. Voilà, on est des pères de famille, on est des gens qui travaillons dans nos campagnes ici, on respecte nos voisins, on crée de l'emploi, je préfère rassurer tout le monde ici, nos produits sont tout à fait consommables et sont tout à fait de très bonne qualité. Et au niveau sanitaire, il n'y a rien à dire. Partant de ce principe-là, pourquoi on devrait changer notre système à partir qu'on peut vous garantir la sécurité sanitaire des aliments qu'on produit?
Parce qu'il y a des problèmes dans la nature quand même.
Est-ce que quelqu'un veut reprendre la parole?
Oui. Moi je ne suis pas agricultrice, je suis à l'autre bout de la chaîne. Vous disiez tout à l'heure que votre boulot c'était de nourrir les gens. Moi je mange bio depuis des années, j'habite dans un endroit un peu protégé et voilà. Et j'ai voulu savoir si j'étais intoxiquée. Et voilà, on est plusieurs à s'être rendu compte qu'on avait un taux de glyphosate dans nos urines qui était super important.
Donc déjà, est-ce que vous êtes en bonne santé? Bon, ça a l'air d'aller. Donc le glyphosate ne vous a pas complètement encore abîmé, et tant mieux. Non, mais c'est important. C'est important quand même. C'est en vente libre.
Voilà. Mais nous, les non, non, c'est non, autorisé, non, mais c'est dangereux. Ah, non, non, les choses non, autorisées non, doivent être dangereuses. D'accord.
Nous, en agriculture professionnelle, raisonnée, le mot, il faut l'entendre, hein, raisonnée, on utilise du glyphosate avec des autorisations. On est dans la légalité complète pour cette affaire-là.
Monsieur, derrière vous, je veux
dire. Jean-Marc Thomas, je suis paysan à Rostremain et je milite à la Confédération Paysanne. Je rappelle quand même que la Confédération Paysanne n'a pas signé l'appel des coquelicots pour la simple et bonne raison, c'est que l'arrêt immédiat des pesticides, ça ne nous paraît pas possible. Ceci dit, l'objectif pour moi, il est essentiel, il faut concevoir à terme une agriculture sans pesticides. Il faut qu'on regarde tous dans le même sens. Pourquoi? Et le débat de ce soir, il est important de ce point de vue-là.
C'est bien, tu reposes bien le débat.
C'est que, n'oublions pas que dans le milieu agricole, on a une prévalence de certaines maladies bien supérieure aux autres catégories. Je pense au lymphome, Parkinson, certaines tumeurs du cerveau, le cancer de la prostate. Donc, des études de l'INRA et de l'INSERM attestent qu'il y a bien un lien entre ces maladies et l'utilisation des pesticides. Alors, on ne peut plus dire aujourd'hui, c'est plus possible, hein, si on s'adresse aux générations futures, c'est plus possible qu'on dise qu'on ne savait pas. La deuxième chose, on a parlé de biodiversité, j'y reviens pas. Pour moi, elle est menacée, la biodiversité. Ouais, on ne peut plus nier ça.
Les hirondelles, les oiseaux, c'est terminé.
Donc là, il faut vraiment qu'on s'interroge. Alors, vous avez parlé des procédures d'homologation. Le problème, il est que ces procédures-là, moi, je les dénonce parce que, et ça, on le subit tous Il y a des scandales qui arrivent aujourd'hui, malgré les AMM, le scandale du prosulfocarb. Vous avez entendu parler du prosulfocarb.
Oui, 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 oui.
Bon, ben, bon sang de bonsoir, il a eu une AMM, ce oui. produit. Oui. Et ben, qu'est-ce qu'il va faire, le prosulfocarb? Il est tellement volatile qu'il va contaminer des vergers de pommes. Ouais. Qui sont en bio, et les gars qui sont en bio et qui sont contaminés, ils se voient retirer leur certification. Je ne sais pas si vous voyez.
Alors moi c'est François Céliou, je suis paysan à la retraite de Trévergat. Et j'aimerais simplement dire une chose, c'est que ça fait 20 ans que je suis passé en bio, j'ai fait du lait bio, j'avais 50 vaches laitières en bio, et je n'utilisais pas du tout de pesticides, et ça allait très bien. Et cet hiver, j'avais 30 ruches, j'ai perdu les deux tiers, et ça m'énerve vraiment. Et je sais que les pesticides, c'est partout. La Bretagne est l'une des régions où on met le plus de pesticides en France. En gros, je crois que le problème est extrêmement grave et d'une gravité extrême. Et ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait 20 ans qu'on peut faire de la bio, et ça fait 30 ans qu'on en parle, et on est toujours là. Il y en a toujours qui préfèrent les pesticides.
On a un apiculteur qui est là et voilà. Qui va réagir.
Alors, ça fait quelques années maintenant que je fais de l'apiculture de façon purement amateur au départ, et depuis 2-3 ans, j'ai vraiment la volonté d'en faire un métier, vivre de la terre. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure. Chacun a sa façon de penser, chacun fait comme il a envie, du moment que ça n'emmerde pas celui de le voisin. Mon problème, c'est que ça fait 3 ans, 4 ans, que j'ai 30% à plus de 30% de pertes à 50 dessins d'une année sur l'autre. Quel éleveur, laitier ou pas, pourrait accepter de perdre un tiers de son cheptel tous les ans? Moi, j'aimerais vivre de mon métier. Je respecte ceux qui veulent vivre de leur métier de façon différente, sauf que moi, je ne peux pas le faire.
Alors, je passe la parole à...
Je suis vétérinaire, je connais bien les éleveurs. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne trouvera pas de solution. Le problème, c'est un problème de modèle agricole. Avec des trop grandes surfaces et de la monoculture, on est forcé d'utiliser les produits. Sinon, on n'aura rien au bout, c'est certain. Donc, voilà, je trouve que c'est un peu un débat
stérile.
Ben, un petit peu stérile, parce qu'il n'y a pas de solution si on reste dans la monoculture. Enfin, voilà, c'est un problème de modèle agricole.
Ce que j'aimerais dire un petit peu aussi, c'est que pour avoir fait du bio il y a 20 ou 30 ans, les paysans conventionnels, vous avez pris les bio pour des cons, je regrette. Durant très longtemps, on a été stigmatisés, etc., pendant des décennies, pris pour des marginaux et des hippies. Et là, maintenant, vous dites, ah ben ouais,
alors,
mais c'est vrai. Voilà. Et toi, tu prends les agriculteurs pour des cons.
Moi, je suis paysan, j'étais paysan pendant 40 ans, bordel.
Mais t'y es vu.
Alors,
Roland,
le problème.
Ben oui,
le monsieur ici là, il demande la parole depuis.
Un homme lève la main un peu plus loin.
Bonsoir.
Il s'appelle Hervé Le Gall, c'est un habitant de Glomel.
J'habite au Merdi à Glomel. Notre maison est juste en limite de parcelles donc qui sont exploitées par un agriculteur.
C'est moi,
agriculteur. Donc, notamment une fois, j'ai eu toute ma maison qui était toute blanche, donc je ne sais pas quel produit qui était utilisé. J'ai des photos. Ce n'est pas des mensonges.
Mais hein. Tu m'as pas appelé, c'était moi ou quoi?
Ah, je ne sais pas qui c'était.
Bah, moi, j'ai un champ à côté du tien. Donc...
À côté d'Hervé Le Gall, la personne qui dit « c'est moi », c'est l'agriculteur qui refusait, au début de la réunion, de dire combien d'hectares il cultive. En réalité, son exploitation est une des plus grandes du département.
J'ai des soucis respiratoires importants depuis l'enfance. Et c'est vrai que quand le pulvé passe, je rentre dans la maison, on ne peut pas rester dehors, c'est irrespirable.
Ici, pulvé, c'est l'abréviation pour dire pulvérisateur de pesticides ou d'engrais.
C'est une réalité. Et quand je vois que dans l'autotracté, on peut te dire bonjour et qu'on est bien protégé. Et que toi, quand tu es à côté dans ton jardin bio, tu n'es pas protégé. Voilà, c'est tout. J'essaye de faire un jardin bio, je sais bien qu'il n'est pas bio, parce qu'il ne sera jamais bio dans ces conditions.
C'est moi le voisin. Il n'ose pas me le dire.
Mais c'est la coïncidence, je ne nomme personne.
Non, mais ils n'ont qu'à me brûler là, devant le calvaire, là, s'ils veulent aussi. Merde.
Moi, je dis carrément le mot, c'est emmerdant. Parce que maintenant, on ne peut plus travailler.
Ah, mais non, mais vous ne pouvez plus travailler, et puis nous, il faudrait qu'on aille vivre ailleurs.
Non.
Mais nous aussi, on travaille. Tu choisis quoi?
Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut bosser? Est-ce qu'on peut construire notre
mais environnement? Mais pas avec les gens qu'il y a là qui nous...
Mais si, mais pas, mais si!
Mais
Moi, je remarque que le ton monte, donc on va tous souffler, respirer, parce que là, ça devient. Là, c'est pas la pollution qui devient irrespirable, c'est un peu le débat. Quand même. Donc, une minute de pause pour tout le monde.
Il y a du café. Il est chaud.
C'est pas vrai, il est chaud.
Si, un petit peu. Est-ce que vous voulez un bout de phare ? Stakes get higher. I've got the capitalist blues. When I give everything, I won't have much more to lose. I am swimming in an ocean of sharks. They are telling me how I'm gonna make my little mark. C'était l'appel des coquelicots et autres conflits autour des pesticides, un reportage de Morgane Large et Inès Léraud, réalisé par Cécile Lafont. Merci à Fanch Vénère, au mouvement des coquelicots de Glomel, aux agriculteurs de Glomel et alentour. Sachez, si cela vous intéresse, que le prochain rassemblement des coquelicots de Glomel aura lieu précisément aujourd'hui, vendredi 7 juin, devant la mairie de 17h30 à 19h30. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire. Try to take a different view.